France Inter.
Les inventions de l'évolution, c'est formidable.
CO2, mon amour.
D'abord, la variété des organes génitaux. Bon, les naturalistes savent que pour distinguer deux coléoptères qui se ressemblent beaucoup, on va leur disséquer les genitalia, c'est pas un truc que je fais, hein. Mais comme ça, on les distingue parce que le sexe est l'organe le plus varié de l'évolution.
Ah. Denis Chessou.
Le sexe, non seulement il est au milieu de l'individu, mais il est au centre de l'évolution.
Sur France Inter.
Eh bien écoutez, la nature qui chuchote à vos oreilles, c'est véritablement cela, et tout à fait tranquillement, et je vous le disais, sans déranger les animaux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, avec aujourd'hui Mathias Saléon à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, Juliette Gou a réalisé le reportage, et c'est Claire Destacan qui nous accompagne cette semaine en direct. Et ça commence toujours par une petite humeur, vous le savez. Entre l'eau de la Seine, pas encore tout à fait potable, des arbres abattus en ville tous les jours par les élus qui disent qu'ils ont la rage afin de planter leur nouveau parking et y faire rentrer les voitures obèses, les guerres dont la cote malheureusement est en hausse, nos démocraties fragilisées, eh ben, j'ai pris cette semaine le large. Où ça? Dans le Vorarlberg, grâce à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux qui m'ont embarqué dans leur voyage d'études. Alors, le Vorarlberg, c'est la partie la plus occidentale de l'Autriche. Ces Européens, donc à la fois critiques et convaincus, sont des pionniers d'une écologie en action et pas fumeusement théorique. Le Vorarlberg est devenu un lieu de tourisme architectural où sont nées les premières maisons passives dans les années 1980. C'est donc un land qui est très autonome, pas de comparaison possible donc avec nos régions, 400 000 habitants sur 2600 km², posé dans la plaine du Rhin, au bord du lac de Constance et en montagne. Et une de ses motivations à l'origine, c'était ne plus acheter de gaz aux Russes et de pétrole aux pays arabes. C'était pas l'écologie au départ. Et l'argent économisé est mis dans la recherche, les énergies renouvelables, la filière bois structurée avec 25 ingénieurs dédiés, donc c'est un vrai choix politique. Vous avez un réseau de bus qui est fiable, cadencé, qui maille tout le territoire, un paquet de pistes cyclables. Alors vous n'avez pas de zones commerciales, industrielles qui sont à l'écart. Non, les PME, TPE qui créent de la richesse sont intégrées dans le tissu urbain, au milieu des vaches, et vous n'avez pas de mitage en montagne. Alors là-bas, ça c'est très intéressant, parce qu'on décide vraiment en commun dans le Parlement du Land et dans les communes qui sont solidaires les unes des autres. Et qu'indique leur boussole? Eh bien, la préservation du territoire, le même bien-être pour tous, on ne défait pas systématiquement ce que les autres ont fait et on enrichit les idées des autres. Et puis Rennes est aussi là. Forêt. Pour préserver les humains des avalanches et de l'érosion des sols et pour valoriser aussi, entre autres, le sapin blanc qui autrefois était considéré comme vraiment une espèce tout à fait inintéressante. Aujourd'hui, 25% de bâtiments et de maisons en bois, un savoir-faire reconnu mondialement, 150 architectes au même niveau que le forestier, le sieur, le charpentier, le menuisier et qui discutent tous ensemble. L'amour, le goût du paysage et pas de résidence secondaire. Ah bah oui, parce qu'on est désolé, hein, vous devez vivre ici plus de 6 mois de l'année, car la valeur doit rester dans le land. Donc vous allez vous asseoir sur votre résidence secondaire. Alors pays, land capitalistique, hein, sachant travailler, respirer en commun, faire ensemble, compter sur l'autre. Et puis vous avez aussi une trentaine de supermarchés, les Süterlutti, avec 35% de quand même produits locaux qui font bosser 1500 producteurs. Bon, pour le camembert de Normandie, ça ils connaissent pas. On préfère les cuisines centrales avec des produits locaux, des menus équilibrés aux plats qui sont préparés. Et puis les stations de montagne ne sont pas en compétition. C'est absolument l'inverse de la France. Et tout le monde vit à peu près bien. Alors ce n'est pas un paradis, je ne suis pas en train de vous vendre ça. C'est une autre culture, une autre mentalité avec l'impossibilité d'importer ce modèle. Mais on se disait avec les parcs naturels régionaux que c'était quand même, comme on dit très joliment, sacrément inspirant. Et puis comment, c'est ainsi que 9 landes, donc qui faisaient partie des plus pauvres, hein, c'était ça, donc c'était pour le Vorarlberg, est devenu en 40 ans un des 2 plus riches. Comment progresser tout en se protégeant de la violence de la globalisation, c'est aussi leur ligne. Alors identitaire assurément, mais très ouvert sur les autres, avec une fierté sans arrogance, sans donner de leçons. Et puis pour finir, vous n'avez pas de déchets qui traînent, vous avez une signalétique intégrée, vous avez des gens calmes sur la route, on est en pointe sur le photovoltaïque. Bon là c'est des panneaux évidemment, made in China comme tout le monde, mais... avec l'interdiction de défricher et d'en poser sur les terres agricoles. Hein, oui, je laisse un petit blanc psychologique. Personne n'évitera le chaos, hein, qui vont s'accélérer, mais il y a des gens qui affronteront peut-être plus sereinement parce qu'ils ont bifurqué depuis longtemps et collectivement. Et puis un truc qui est complètement dingue, ils vivent sans panneaux publicitaires, c'est interdit, mais comment font-ils? Ils sont fous. Et nous, donc, on va partir en forêt. Étudier la sexualité des animaux sans les déranger avec Marc Giraud. Et cette émission est dédiée à mon ami Jean-Marie Gilardeau qui malheureusement ne pourra plus l'écouter. Allez, on débute en musique.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. Assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Une ambulance passe, 100 à l'heure. Il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour.
C'est tout à fait vrai, en fait, que le soleil fera un jour tout cramer. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera dans 4 milliards et demi d'années. Y aura-t-il encore des vivants? On ne sait absolument pas. Bon, en tout cas, c'était, vous l'avez compris, des heures sup d'amour. Ce que je vous souhaite vraiment ardemment, c'était Raphaël. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui va suivre, c'est-à-dire la reproduction des animaux.
Je remarque tout de suite la logique de la nature, c'est-à-dire qu'on a les fleurs de printemps qui se dépêchent de pousser parce que les arbres en haut, les grands arbres, n'ont pas encore leurs feuilles.
Ah oui, ils vont pas capter la lumière, donc.
Voilà, donc tant qu'il y a de la lumière, c'est les feuilles. Ensuite, là, on voit les premiers arbustes qui commencent à avoir leurs feuilles et leurs fleurs aussi. Et en dernier, viendront les grands. C'est chacun son tour. Il y a vraiment une logique, un étagement dans la forêt. Et la forêt, ça fonctionne par étage. C'est pour ça que c'est le milieu le plus riche chez nous. Il y a une faune du sol déjà qui est fort intéressante mais qu'on ne voit pas. Il y a le tronc qui est passionnant avec les pics, les sittelles, les grains pros, etc. Il y a toute une vie sur les troncs et dans les arbres, dans la canopée, tout ça, c'est fabuleux.
Et en plus, ça tambourine.
Ben, ce sont les pics, hein, des oiseaux grimpeurs et forestiers par excellence qui sont en train de draguer.
En tambourinant.
Oui, à coups de bec.
Tac, 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 pour essayer, ça peut peut-être marcher. Bienvenue en lisière de forêt avec le naturaliste Marc Giraud. Alors, il nous dévoile vraiment avec sérieux, mais non sans humour, ce qui se pratique dans le secret des forêts et dans l'intimité de nos chambres. Où cela? Eh bien, dans son ouvrage qui s'appelle « Bêtes de sexe, la diversité amoureuse des humains et des autres animaux », signé aussi avec Annabelle Pongratz. Et donc, la comparaison de ces étonnantes sexualités humaines et animales, fondamentalement naturelles, devrait peut-être rassurer celles et ceux qui pensent être hors normes et ouvrira peut-être des horizons aux autres. Alors, nous ne sommes pas plus originaux que les tulipes, les mouches ou les baleines, mais nous sommes simplement différents. L'histoire de la sexualité aurait donc débuté à peu près il y a 1,5 milliard d'années avec les eucaryotes, cellules comportant un noyau. Et aujourd'hui, la sexualité est largement répandue dans le vivant, y compris chez les végétaux, les plantes aussi qui attirent l'animal, qui attirent les pollinisateurs, etc. Donc, Bête de sexe chez Delachaux et Niesley, et puis aussi donc un autre ouvrage qui sort de Marc Giraud, qui s'appelle « La forêt en bord de chemin ». Ça, c'est absolument aussi un régal. Donc, ça tombe bien, on s'est donné rendez-vous, justement, en lisière de forêt, où il y a des animaux. Nous étions en Normandie, dans le pays d'Auge. Et au début, était la sexualité ou pas, Marc Giraud ?
C'est venu après la reproduction, parce que le sexe et la reproduction, c'est indépendant. Mais depuis que le sexe a été inventé, en tout cas, il s'est répandu partout. C'est 95% des espèces. Donc, c'est vraiment important pour tout le monde.
C'est-à-dire que ça a marché, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, 95% des espèces actuelles se reproduisent grâce à la sexualité.
Voilà, il y a des mâles et des femelles, que ce soit les plantes ou les animaux d'ailleurs. Donc c'est vraiment universel.
Et ça veut donc dire que cet échange de parties génétiques entre le mâle et la femelle, c'est une garantie, c'est une pérennité aussi pour l'avenir.
Oui, en fait, parce qu'on fait du différent. Ouais. Et la différence, ça peut être une défense contre des parasites, contre des maladies, parce que dans les différences, il y a des mutations qui peuvent être positives, et c'est comme ça qu'on s'adapte et que les espèces évoluent. Donc le sexe, c'est quand même à la base de l'évolution.
Et alors là, on n'est pas exactement sur le bon territoire, mais a priori, la première forme d'accouplement, c'est né dans l'eau, ça ?
Ben oui, parce que dans l'eau, on peut disperser ses gamètes, ça c'est les poissons qui s'accouplent sans qu'il y ait pénétration. Donc chacun lance ses gamètes sexuelles, la femelle et le mâle, et tout ça, ça se mélange dans les courants, ça fait des petits. Alors, on est obligé, quand on fait ça, d'avoir des milliers et des milliers d'œufs, parce qu'il y a beaucoup de risques. Les petits se font bouffer. Alors que nous, on a très peu de petits, mais on s'en occupe très très bien.
Ouais, c'est ça.
Un des plus sophistiqués, c'est l'éléphant. L'accouplement, c'est tous les 5 ans à peu près. La gestation, ça dure plus d'un an. L'allaitement aussi, enfin, etc. Donc, le mâle, il se met la trompe derrière l'oreille pendant longtemps.
Je comprends bien.
Voilà le roi des animaux.
Oh, oh non, ne me dévorez pas.
Il est grand, il fait peur.
Tremblez. Et je ne veux plus jamais vous voir dans mon secteur.
Alors on ferme les yeux là et on se dit Oh, va y avoir une lionne et peut-être un lion. Et alors là, qu'est-ce qui se passe chez elle? Parce que c'est très intéressant. En fait, elle peut s'accoupler pratiquement tous les mois.
Ah oui, quand elles sont à chaleur, les lionnes, elles sont vraiment, on dit une lionne au lit, mais c'est vraiment une lionne dans la savane. C'est un accouplement tous les quarts d'heure pendant 3 ou 4 jours.
Ça dure 20 secondes.
Alors voilà, c'est fréquent, mais très rapide. Ouais. Donc, elle réagit très mal à la fin de l'accouplement parce qu'on sait que le pénis, c'est comme pour les chats, il a des aspérités. Ouais. Mais c'est ça qui provoquerait l'ovulation aussi, c'est une sorte de douleur qui provoquerait. Mais en même temps, elle y retourne tout le temps.
Ouais.
Donc, c'est désagréable, mais pas que. C'est important le plaisir chez les animaux. C'est un truc que les scientifiques ont souvent nié. On a, dans notre orgueil, on pense que le plaisir, on est les seuls à l'avoir. Et en fait, c'est vraiment crucial. Pourquoi ils s'accouplent les animaux? C'est bien qu'ils y trouvent une motivation. Mmh. Alors au minimum, c'est le soulagement d'une pulsion, mais au mieux, il y a une jouissance. Et ça, on le voit notamment chez les femelles. Le plaisir féminin est très 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 important dans l'évolution. Et on le voit par exemple chez des petits animaux, les tipules. Alors là, on n'en voit pas encore les tipules.
Rappelez-nous quand même ce que sont les tipules, parce qu'on a trois personnes là qui savent plus.
Oui, alors c'est des gros moustiques qu'on appelle les cousins, avec des grandes pattes.
Voilà.
Et on a découvert chez des tipules, alors c'est pas les nôtres, c'est en Amérique du Sud, que le mâle avait un zizi à musique.
Ouais.
Et en fait, ça faisait vibromasseur pour la femelle qui appréciait, et que les femelles sélectionnaient les bons coups. Donc les femelles sont vraiment au cœur de l'évolution.
Ce qui veut dire qu'en fait, la jouissance, c'est un cadeau de l'évolution.
Oui, c'est un cadeau. c'est un bonus. Et du coup, c'est une motivation à l'accouplement, mais on n'a plus besoin de l'accouplement. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui se masturbent. C'est le plaisir pour le plaisir.
C'est qui enfin, c'est, on peut les dénoncer ou
oh, bon, on peut les dénoncer. Ben, même les manchots se masturbent. Hein. C'est très, très fréquent chez presque tous les animaux.
Il fait comment un manchot qui se masturbe, excusez-moi.
Ben, il se frotte l'entrejambe contre des rochers. Les dauphins et mâles et femelles se masturbent beaucoup. Alors, chez les femelles, c'est pareil. Ils se frottent contre des rochers, contre des cordages de bateaux. Les mâles, eux, ils ont un pénis, ça se détend. C'est aussi un organe de perception de l'environnement. C'est un peu comme nos doigts. Donc, avec les dauphins, tout devient très vite sexuel.
On se pose là au sommet de la colline. La vallée est en bas. Alors, on a des oiseaux qui vont chanter plus ou moins longtemps. Est-ce que ça aussi, ça a une importance dans la séduction ?
Tout est information dans le chant des oiseaux. On ne se rend pas compte. Hein. Peut-être qu'ils chantent pour le plaisir, entre autres, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Entre autres, quand ils chantent très longtemps, ça veut dire qu'ils ont le temps. Ça veut dire qu'ils ont un beau territoire où il y a assez de nourriture, où on chasse très, très vite et on a le temps. S'ils avaient un mauvais territoire, ils passeraient leur temps à chercher de la nourriture et chanteraient moins.
Ils chanteraient moins.
Et les femelles, elles enregistrent tout ça. Il y a des oiseaux, les mandarins, les mâles savent si une femelle est libre ou non, par exemple, rien qu'à son chant. Mm-hmm. Donc on en sait des choses à la voix. Hein.
Est-ce qu'ils se repèrent aussi au flair ? Parce qu'on dit très souvent que les oiseaux n'ont pas vraiment de flair.
Les oiseaux ont plus de flair qu'on le croit. Hein. Ça, c'est une dessinatrice animalière, d'ailleurs, qui a trouvé ça, en disséquant les organes olfactifs des oiseaux. Et en fait, ils ont du flair. Et souvent, entre autres les canards, même pendant les parades nuptiales, ils se repèrent aussi à l'odeur.
Ah ouais. Lorsque l'on parle quand même de l'accouplement des oiseaux, parce que là, voilà, on y est, hop, ils montent l'un sur l'autre, mais c'est ce qu'on appelle le baiser cloacal.
Oui, bah, c'est assez imagé. Hein. Enfin, je vous ai fait des dessins, hein. Mais ça c'est dans le livre. C'est simple parce que la plupart des oiseaux n'ont pas de pénis. Ils l'ont perdu au cours de l'évolution. Il n'y a plus que les canards et les autruches, en gros, qui en ont un. Donc, ça va très vite. Le mâle doit faire des acrobaties pour se retrouver sur la femelle. Et hop, c'est un baiser cloacal, c'est-à-dire un contact cloaque contre cloaque. Ça va très, très vite. Mm-hmm. Et le sperme a le temps de passer très, très vite parce qu'il est chimiquement attiré. Et voilà, c'est fini. Ben, ils ne peuvent pas tenir longtemps. Il y a des animaux qui s'accouplent longtemps, mais pas les oiseaux.
T'es prêt ?
Prêt pour quoi ?
Ok. Le beau gosse, le regard de killer. Bon, alors.
Bon, et tu fais quoi là ?
Quoi ? Ce qui était prévu, sans vouloir être impoli, juste par curiosité. Attends, je sais que mon plumage est flashy, mais je suis pas un dragueur.
On continue notre chemin. On parle de vous. Oui. On parle de votre production. Hop là. Et alors les positions ?
Ah bah, il y a de tout. Alors les plus acrobates, c'est les bonobos, parce qu'ils ont ça en commun, qu'ils sont en partie bipèdes, qu'ils peuvent s'accrocher, ils peuvent très bien s'accoupler en se tenant par une main à une branche, par exemple. Alors il y a l'accouplement face à face, qui est une spécialité des bipèdes d'ailleurs, il n'y a pas que, mais quand même. Nous, on a une sexualité particulière parce qu'on est des bipèdes permanents. On a des organes génitaux placés pas tout à fait comme les autres, verticalement. Par exemple, les organes féminins sont les uns au-dessus des autres, alors que chez un quadrupède, ils sont les uns derrière les autres. Et on fait souvent l'amour face à face, ce qui rapproche les regards et qui facilite les sentiments. En fait, il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier, mais on a beau être très inventif, la nature est beaucoup plus inventive encore.
Le cheval est plus froid, mais attention, quand je dis froid, je ne peux pas dire non plus que... Parce que vous allez peut-être me dire que c'est un cliché, mais le cheval, quand nous lui montons sur le dos, est-ce que nous lui demandons son avis, nous, les humains ?
Non.
Voyez-vous, Charlotte, est-ce parce que je ne me suis jamais mariée ? Est-ce parce que j'ai besoin d'avoir des enfants, mais...
Viens d'où, votre costume ?
Je dois aussi un peu m'habiller, cher Marc Giraud, donc je dois séduire aussi avec des couleurs ?
Ah, les apparences, c'est important. Eh ben, il faut être visible. Donc, c'est le pan qui fait la roue. C'est peut-être là l'origine de la beauté, d'ailleurs. Il faut que la femelle soit réceptive à certains stimuli, qui sont en général le champ puissant, des couleurs vives, des choses comme ça, un petit peu tape à l'œil, qui fait d'ailleurs que des mâles ont ce qu'on appelle un handicap séducteur, parce que c'est les plus spectaculaires qui ont été sélectionnés, qui ont transmis ça à leurs fils, et ça fait des animaux. Alors j'en ai dessiné une, là c'est difficile à décrire à la radio, mais quand même, c'est la mouche aux yeux pédonculés. Vous voyez le requin marteau avec les yeux très très loin, et ben c'est une mouche, c'est encore pire. On dirait vraiment qu'elle a des balanciers sur la tête et au bout c'est l'œil, parce que les femelles aiment les yeux très écartés. Donc de génération en génération, ça a donné ces mouches extraordinaires. Donc la sélection sexuelle, elle est très différente de la sélection naturelle. C'est ce qu'avait rendu perplexe Darwin, c'est que ces appendices, ils sont pas bons pour la survie, mais ils sont bons parce qu'ils séduisent les femelles.
Oui, donc cette forme-là, c'est aussi indispensable dans l'évolution, mais pas forcément au sens darwinien, mais d'évolution des formes. Alors,
oui, c'est ça. C'est des formes qui ne sont apparues que pour la sélection sexuelle et non pas pour la sélection naturelle. D'accord. Et ça, encore une fois, ce sont les femelles qui sont au centre de tout. Et Darwin, dans son époque assez misogyne, il avait déjà osé dire ça. Ce sont les femelles qui décident.
Alors, on ne va pas vous dire qu'on va voir un macaremoine que nous aimons beaucoup, parce que nous ne sommes pas en Bretagne. Mais quand même, Marc Giraud, les couleurs là sont aussi assez impressionnantes. Parce qu'au moment de la reproduction, qu'est-ce qui se passe chez le macareux ?
Ah bah, il rougit avant l'amour. Ça arrive aux coccinelles, ça arrive à plein de...
Ça arrive à plein de gens très bien, vous savez.
Oui, oui, absolument. Mais le rouge est une couleur très, très sexuelle. Hein. On le voit sur les fesses des femelles babouins qui rougissent et qui gonflent au moment où elles sont en chaleur. Quand elles ont les fesses rouges, ça veut dire feu vert pour les mâles. Donc le rouge, c'est quand même une couleur ponctuelle et faite pour la séduction chez beaucoup d'espèces.
Les parades. Alors là aussi, c'est très important les parades dans la séduction.
Il y a des choses qui nous paraissent absurdes. Justement, sur l'étang, là, on voit des grébupés. Les grébupés, c'est des oiseaux magnifiques qui sont très communs et qu'on connaît pas, et c'est bien dommage. Ils se mettent l'un en face de l'autre, ils tournent la tête, et on dirait des jouets mécaniques complètement déréglés. Ça nous paraît absurde, mais c'est un rituel qui montre à l'autre qu'il est prêt à l'accouplement. Ça synchronise leur rythme biologique. Ça leur permet de se pacifier aussi, parce que les animaux, ils ont peur des uns des autres. Donc la parade, c'est extrêmement important.
Et là, on voit donc ces animaux. Et en fait, ils se pointent pas du bec. Hein. Leur bec, c'est quand même à la fois pour se nourrir, c'est aussi une arme. Et en fait, ils ne pointent pas directement vers l'individu.
Oui, oui. Alors le bec, c'est une arme, c'est comme le revolver. Ouais. Donc on le pointe pas. Justement, la parade nuptiale, c'est fait pour pacifier. Donc vous voyez, les cigognes, par exemple, elles renversent la tête en arrière. Chez les moineaux, par exemple, le mâle, il frétille des ailes, comme s'il demandait à la béquer, il bétifie. Et ben, c'est comme ça qu'il plaît, voilà, en faisant le neuneu.
Ah ben, ça marche. Non, mais c'est intéressant parce que ça nous redonne espoir aux uns et aux autres aussi, à nous les humains.
Voilà, faut pas être complexé.
Mais non, faut pas être complexé une seconde.
Eh bien, vous apprenez des tas de choses, et puis moi aussi, hein, c'est notre mission de service public, et donc on va continuer avec Marc Giraud d'ici quelques instants, mais en attendant... Ah si, intéressant, un peu d'amour chez les animaux, mais aussi en musique chez les adultes.
Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Si Denis a plus d'un amant, parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement, c'est une chose bien connue. Si Denis a plus d'un amant, elle en prend à ses cheveux blonds comme à sa toile l'araignée. Prend les mouches et les frelons, elle en prend à ses cheveux blonds, vers sa prunelle ensoleillée, il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée, elle en prend à ses cheveux blonds. Elle les mène par le nez, comme fait dit-on le crotal des oiseaux qui l'a fasciné. Elle les mène par le nez quand dans une moelle étale sa langue à leurs yeux étonnés. Comme fait dit-on le crotal, elle les mène par le nez. Elle en attrape avec les dents quand le rire entr'ouvre sa bouche, et dévore les imprudents. Elle en attrape avec les dents. Sa bouche, quand elle se couche, reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Sidonie a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'en loue, elle s'en moque également. Sidonie a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'en loue. Sidonie aura plus d'un amant.
Eh bien, Thierry Dupin, notre programmateur, a très bien compris le sens de cette émission avec Sidonie, Brigitte Bardot et Bête de sexe, la diversité amoureuse des humains et autres animaux de Marc Giraud et Annabelle Pongratz. Et puis donc aussi cet ouvrage, La forêt en bord de chemin, aux éditions de La Chaux et Niestlé, avec les chevreuils qui parlent avec leurs fesses, les champignons qui ont du vocabulaire, les arbres qui grossissent la nuit, les sangliers qui glandent, etc. Donc c'est très très intéressant aussi, La forêt en bord de chemin. Oh, un petit jingle.
Super chaud en fait.
CO2 mon amour.
Et la rivière c'est de l'autre côté hein.
Avec Denis Chesson sur France Inter.
Ouais, bah nous c'était en bas. C'était en bas dans notre pays d'Auge, là tout à fait tranquillement, toujours avec Marc Giraud. Allez, c'est reparti parce qu'on a encore des animaux à vous faire découvrir. Sous le barbelé.
Vas-y.
Hop là. Ah bien, on est en ligne de crête là. Il y a un commerce qui ne marche absolument pas, c'est celui des parfums, et en particulier chez les chauves-souris. Non, il ne s'agit pas de sentir bon quand on est chauve-souris.
Ah oui, alors ça c'est le noctilion, bec de lièvre. Celui-là, il sent des bras, c'est comme ça. Mais même sur le terrain, quand un mâle est en chaleur, on le sent à distance. Hein. Et il sent des bras, et c'est comme ça qu'il plaît aux femelles chauves-souris. C'est comme ça que... Ils se plaisent entre eux, voilà. Le principal, c'est que ça marche.
Mais ça ne fonctionne pas quand même pour toutes les chauves-souris, hein. C'est bien
c'est le noctilion. Les chauves-souris ont beaucoup d'originalité. On a découvert l'effellation chez une espèce de chauve-souris, le cunnilingus chez une autre. On ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais probablement à allonger le plaisir de l'accouplement.
Ouais.
Mais ça, il y a des chercheurs qui regardent ça très très soigneusement dans leur laboratoire.
Là aussi, entre même espèces, donc on va dire homosexualité, etc., ça existe aussi, évidemment, chez les animaux.
Alors, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de morale chez les animaux. Et ouais. Ça, c'est un coup pour les manifs homophobes, un papa, une maman. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de comportements homosexuels, mais chez des centaines d'espèces. Hein, à la limite, dès qu'on en étudie une, on finit par trouver des comportements homosexuels, et surtout bisexuels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas regardants. Ah bah là, on a une fauvette qui...
Ça y va, là.
Qui drague. Elle veut passer à la radio.
C'est ça.
Mais... Alors là, on la voit, mais c'est typique des animaux. On s'arrête pour l'entendre. Il faut mettre la tête noire. Là, on voit, c'est mal.
On la voit, oui. Hop là.
Il est dans le lierre. Peut-être qu'il se nourrit des derniers grains de le lierre pour sa nicher. Ça, c'est possible. Et à côté, on entend un rouge-gorge. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle.
Bon, qu'est-ce qu'on se racontait? Si on était sur homosexualité, bisexualité,
voilà,
très ouverture d'esprit. Quoi,
on était dans la gay pride animale,
ouais.
Et il faut dire qu'il y en a une. Hein. L'homosexualité, elle a été découverte en France sur des coléoptères. C'était des mâles qui s'accouplaient entre eux, et à l'époque, c'était complètement tabou, et on parlait de comportements aberrants, anormaux, etc. Donc les savants qui ont vu ça... Ils se sont dit, c'est probablement que ça manque de femelles. Donc ils ont mis des femelles avec ces mâles, mais ils se sont aperçus qu'ils continuaient de préférer s'accoupler entre mâles. Et donc ils ont bien fini par admettre qu'il y avait quand même des mœurs homosexuelles chez les hannetons, les coléoptères. Et maintenant, on en a découvert, notamment chez les girafes, des girafes gays, on a beaucoup étudié ça. Chez des guenons aussi, chez les mouettes, chez les goélands. Enfin, vraiment, c'est... Il y en a partout.
Et ce qui malheureusement n'est évidemment pas toujours toléré dans un certain nombre de pays, chez les humains, encore sur cette terre.
Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le principe de l'action-réaction et comment on peut produire une poussée par l'éjection de gaz...
Alors la langue et tout, la bave, comment je fais? Ça coule pas sur les côtés? Ça fait pas des coulaisons?
Ben non, mais en fait ça se fait naturellement. C'est aspiré.
Faut faire monter avec la bouche?
Ben non, mais tu sais, avec les mouvements, ça coule pas. Ça fait un courant, un peu comme avec les hélices des bateaux.
Ah, alors là, c'est pas exactement la même fréquence que la lionne, parce qu'on voit deux escargots. Et alors là, ils sont enchâssés
l'un dans l'autre. Comment ça se passe pour eux ?
C'est très sensuel, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez Microcosmos, il y avait un air d'opéra sur l'accouplement des escargots. Bon, tout le monde sait qu'ils sont hermaphrodites, donc en même temps gars et filles.
Oui.
Donc quand ils rencontrent quelqu'un, c'est forcément la bonne et le bon. C'est déjà ça, quand on ne va pas très vite, c'est pratique.
Oui, oui.
Donc la parade peut durer plusieurs heures, l'accouplement aussi, plus d'une dizaine d'heures chez les Bourgognes ou chez les Petits Gris. Ils s'enfoncent en même temps un dard calcaire. Donc c'est un peu sadomaso, sans doute pour se envoyer des phéromones, parce que chacun cherche à ne jouer que le rôle de mâle, qui est un rôle très facile, c'est-à-dire qu'on donne ses gamètes et on s'en va. La femelle, elle est obligée de dépenser beaucoup d'énergie à la gestation et à la ponte. Mmh. Donc il force l'autre à jouer aussi la femelle. Et en général, quand ils se séparent, ils seront en même temps heureux papa et maman, chacun de leur ponte.
Floc, floc, floc. Moi, je me mets sur le côté parce que vous avez les bottes.
Ah oui,
moi, j'étais un peu léger. Là. Voilà. Pendant que nous gadouillons joyeusement, ce qui est un très bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a de l'eau qui ressortira donc plus tard. Votre ouvrage, il est intéressant aussi parce qu'il est ancré dans l'actualité.
Oui, il n'y a pas que des anecdotes sur les sexes doubles ou détachables ou autres. Ça, c'est très rigolo. Mais ça pose aussi des questions d'actualité.
Ça dépend pour qui ?
Oui, voilà. Par exemple, on s'est posé la question du consentement, du viol.
Ouais.
Chez les punaises des lits, c'est l'accouplement traumatique. Le mâle vise n'importe où et il féconde la femelle ou que son instrument tombe. Ouais. Voilà. Donc c'est très brutal, c'est ce qu'on appelle traumatique. Et d'ailleurs, il y a des femelles qui ont un pseudo-vagin dans le dos pour canaliser ça. Et il y a même une espèce de punaise où les mâles ont un pseudo-vagin dans le dos pour canaliser la brutalité des mâles.
Ah ouais.
Et chez les canards aussi, il y a des canards qui sont assez violents. Ça, j'en ai vu. Hein. 4-5 mâles qui poursuivaient une femelle, elle n'avait pas trop son mot à dire. Alors, la question du viol chez les primates. Parce que les mâles sont en général beaucoup plus musclés. Et c'est Franz de Waal qui dit, mais les mâles sont beaucoup plus musclés, non pas pour violenter les femelles, mais pour se battre entre eux pour les femelles. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, chez les chimpanzés, si un mâle abuse, les femelles font une coalition et peuvent aller jusqu'à le castrer.
D'accord.
Et donc, le mâle alpha dominant qui a tous les droits qu'ont vu les premiers primatologues, les femmes qui ont observé ça après, ont vu des choses très très différentes.
Ouais.
Donc les bonobos, c'est une société matriarcale, il n'y a aucune violence,
mm-hmm.
Tout est permis, donc il n'y a pas de viol. Et il n'y a que l'humain qui est une énigme.
C'est ça.
Chez l'humain, c'est extrêmement répandu. Donc, j'ai pas l'explication.
Racontez-nous la bande son de ce lieu.
Ah ben, c'est toujours fabuleux. Alors là, on entend une maison charbonnière, c'est en deux notes. C'est très simple.
Elle prend sa scie en train de limer.
Voilà, c'est ça. Elle fait simple, mais au moins, elle se reconnaît. Hein. C'est sa longueur d'onde à elle.
Ouais.
Et souvent, les gens sont un peu traumatisés par les chants d'oiseaux. Ils pensent qu'on ne peut apprécier la nature qu'on est un super connaisseur, qu'on connaît les noms latins, mais pas du tout.
Ouais.
On apprécie déjà la musique, le calme. Et on peut apprendre des chants aussi simples que la mésange charbonnière en deux notes. Ça, c'est comme le coucou, c'est quand même très facile.
Ouais.
Et puis, petit à petit, on apprend les plus simples, les plus communs. Comme le pinson, les pinsons, dès qu'il y a un arbre, il y a un pinson. Donc après, on frime. On frime en société. Oh, ça, c'est un pinson.
Oui.
C'est un mâle, comme il n'y a que les mâles qui chantent les pinsons. Et voilà, et on frime.
Qu'est-ce que tu me fais là ?
Elle dit oui.
Ben non, là, tu fais comme si c'était l'attraction terrestre qui te poussait vers moi.
Mais non.
Si. Moi, je veux un homme qui me montre qu'il me veut. Qui produise un acte moteur, pas un abandon.
Ben, c'est foutu, alors.
Non, c'est pas foutu.
Là, on s'est rapproché d'un petit étang. Et on est face à nos libellules. Et ça, vous les adorez. Vous avez écrit d'ailleurs le Kama Sutra des demoiselles. Mais alors, à juste titre.
Ben, quand elles s'accouplent, déjà, elles dessinent un cœur. Ce qui est très romantique. Mais en fait, c'est que leurs organes génitaux sont très, très, très compliqués. Le mâle, bon, il a le sexe au milieu du corps, ça c'est assez classique, mais il a sa réserve de sperme au bout du corps. Donc il est obligé, avant l'accouplement, de se faire un petit échauffement solitaire pour remplir son silo, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Et après, la femelle, c'est pareil, elle est obligée de se plier. Donc il la prend par la nuque avec une pince qu'il a au bout du corps, il la prend par la nuque, il se tord vers elle, elle se tord vers lui, et c'est comme ça qu'il forme un cœur. Et comme les femelles sont très volages, Les mâles, eux, ils ont une quéquette à balayette, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils font le ménage dans l'intimité de leur partenaire pour être les seuls à distribuer leurs gènes. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, la femelle va faire pareil avec un autre. Sauf qu'il y a certaines espèces, on les voit, des petites libellules très fines, très bleues. Le mâle reste avec la femelle jusqu'à ce qu'elle ponde. Donc si elle l'accompagne jusqu'à la salle de travail, c'est pas juste par empathie, non, c'est simplement parce qu'il est pour bien transmettre ses gènes. Voilà.
Ses petits, ce serait bien de lui. Où est-ce qu'on en est, effectivement, des études sur les organes génitaux, là, entre les mâles, les femelles, comme ça, chez les animaux?
Alors, bon, j'ai fait les dessins du livre, donc j'ai eu aucun problème à trouver des pénis, tout ce qui est os pénien, etc. Mais pour trouver des bonnes documentations sur les organes génitaux féminins, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, on peut dire que c'est interne et que c'est plus difficile à trouver, ça, oui.
Oui, bon, enfin, un peu de misogynie de la science, peut-être.
Ouais, voilà, c'est ça. Les mâles qui dominaient la science ne sont pas beaucoup intéressés au sort des femelles. Ouais. Et heureusement, maintenant, aujourd'hui, il y a des femmes qui s'occupent de ça, du clitoris notamment. Tiens, on n'a pas parlé du clitoris, c'est vraiment intéressant.
Ben, allons-y.
Parce que c'est le seul organe uniquement destiné au plaisir. Donc, toutes les mammifères en ont, de la souris à la baleine. Et même certains reptiles, donc même la couleuvre, prend son pied.
Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que là, on était plutôt sur les animaux. Mais quand on regarde le règne des plantes, il y a aussi sexualité, évidemment, chez les plantes.
Et oui, et ce qui est extraordinaire et ce qui est touchant, c'est qu'elles cherchent à séduire des animaux. L'orchidée, c'est assez connu, qui se transforme en femelle d'un certain insecte. Elle va attirer les mâles d'un certain insecte, mais pas ses congénères.
Pour terminer sur ce sujet, si je vous dis... Allez, on rentre, Marc Giraud, et on se fait une belle omelette. Et avec dedans un petit champignon, là.
Ah, une petite truffe?
Oui.
Ah bah, je vais vous mettre en appétit, alors. Parce que la truffe, elle est souvent repérée par des truies.
Oui.
Et c'est parce que, en fait, ce champignon sécrète une sorte de testostérone qui est proche du vera en rut. Autrement dit, la truie cherche l'odeur du mâle. Et quand vous faites une omelette, en fait, c'est les œufs, c'est des ovules d'oiseaux avec des parfums cochons.
C'est ça.
Bon appétit.
Eh bien, merci beaucoup, Marc Giraud.
Au revoir, Denis.
Bête de sexe, la diversité amoureuse des humains et des autres animaux, donc de Marc Giraud aux éditions de La Chaux Ingelsley, et puis aussi de lui, La forêt en bord de chemin. Alors ça, vous l'avez compris, hein, si vous souhaitez connaître le fonctionnement subtil de cet organisme géant et on ne peut plus vivant, donc qu'est la forêt, eh bien donc n'hésitez pas avec cette visite guidée, drôle et poétique, comme l'est donc aussi Marc Giraud. Merci à Julien Thévenot qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanet, notre collaboratrice, à Juliette Gou qui a réalisé le reportage, et Claire Destacan qui nous a enveloppé le tout. Et oui, aujourd'hui, donc en direct. La semaine prochaine, je vais vous emmener dans le Perche, oui, dans le parc naturel régional du Perche. Donc on sera entre l'Orne et puis l'Eure-et-Loire. Il y aura à la fois Percheron et puis il y aura aussi Stéphane Bern. Voilà. Oui, alors je sais pas dans quel ordre je vais faire ça, mais en tout cas, ce sera ça. Donc soyez à l'écoute parce que c'est un coin où j'étais très très peu allé et pourtant c'est pas très très loin de la région parisienne, mais non. Donc ce sera aussi le cas. Puisque nous sommes effectivement dans les animaux, et ben si, nous avons donc une nouvelle collection qui est sortie, qui s'appelle Paroles de Piaf. Alors ça, vous la retrouvez sur l'application Radio France. Et là, bah, vous retrouverez cygnes, chouettes, hirondelles, aiglons, flamands, corbeaux, donc Paroles de Piaf. Et puis aussi, toujours dans la même collection, vous avez Auprès de nos arbres avec 5 épisodes, donc 5 podcasts concernant les animaux. Et la semaine dernière, vous vous souvenez, donc j'avais parlé donc de l'Ariège avec Alain Laribet. Et ben, m'est arrivé évidemment entre-temps le Pyrénées Magazine de mars-avril consacré donc à l'Ariège, une nature absolument grandiose. Voilà, vous savez tout, on peut se retrouver sur Instagram, on peut se retrouver sur LinkedIn, sans doute aussi un peu sur ce merveilleux X, joie bonheur. Et si vous aimez d'ailleurs aussi les animaux toujours, eh ben, je vous rappelle, hein, vous avez aussi le podcast de François Morel, là, l'autre jour, notre fabricant d'appos, donc à Beaumont-Andiwa. Allez, vous savez tout.